Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct. Alors, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien parce que c'est un nouveau cadre de tournage. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Alors, aujourd'hui, petite émission live où nous allons parler ésotérisme. L'idée dans cette émission n'est pas de valider une croyance ou d'invalider une croyance. Ce n'est pas de comparer laquelle est la meilleure par rapport à une autre, etc. Ce n'est pas le propos. L'idée, ça va être de tenter de comprendre différents concepts dans le monde de l'ésotérisme afin de voir en fait où on va. En ce sens, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la gnose et du gnosticisme. Alors aujourd'hui, dans le monde du New Age ou de l'ésotérisme plus largement, on entend tout le temps parler du terme de gnose. On entend tout le temps parler des gnostiques. Et tout le monde aime à se référer aux gnostiques. Mais concrètement, c'est quoi en fait les gnostiques? Eh bien, ça va recouvrir différentes définitions, différents cadres socioculturels, religieux bien sûr, et aussi variables suivant les époques. Et justement, on va tenter aujourd'hui de faire une sorte de tuto, un petit peu, pour comprendre c'est quoi la différence concrètement entre la gnose d'un côté et le gnosticisme de l'autre. Alors, je vais tout d'abord voir dans le chat pour voir si vous êtes déjà connecté. Bonjour Jaya, bonjour Monsieur Me, bonjour Atraxpiren, je crois. Mehdi, vous avez des noms, des pseudos compliqués, je vais pas y arriver. Et Elodie, que je viens de voir arriver aussi à l'instant. Bonjour à tous, même si j'écorche vos pseudos, je m'en excuse. Alors, donc, gnose et gnosticisme. Posons tout d'abord une première question, afin de cadrer un petit peu notre thématique. Y a-t-il un ésotérisme chrétien? Alors certains vont vous dire, bah oui, évidemment, il y a un ésotérisme chrétien, il y a la religion de base pour la masse de fidèles, peut-on dire, et puis il y aura un ésotérisme chrétien réservé à certains cénacles d'initiés, réservé à certaines personnes qui sont en recherche, ou réservé aux personnes qui vont dépasser la lecture initiale des textes pour aller chercher le secret des secrets qui se trouve derrière le texte, c'est-à-dire une sorte de lecture secrète, lecture, un décryptage des textes sacrés. Donc, une première famille de gens qui vont dire, évidemment, il y a un ésotérisme chrétien. Puis, on en a d'autres, par exemple, le dogme de l'Église catholique qui va vous dire, non, il n'y a pas un ésotérisme chrétien. Alors, non pas au sens péjoratif, mais ils vont dire, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien au sens, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de caché. La révélation a été donnée en intégralité, juste et parfaite, peut-on dire, et de ce fait, tout le monde l'a à disposition. En ce sens, les gens peuvent évidemment se poser des questions, les gens peuvent cheminer, mais il n'y a pas un ésotérisme, c'est-à-dire un enseignement secret réservé à une poignée. Donc, on a des gens qui vont dire, voilà, il y a un ésotérisme chrétien, c'est évident, et d'autres personnes qui vont vous dire, non, l'ésotérisme chrétien, ça n'existe pas, et même, c'est une hérésie en soi de considérer qu'il y aurait des secrets cachés, non révélés. Donc, vous voyez déjà une première discorde. Ensuite, voyons un petit peu la première problématique qui est le terme de gnose lui-même. Alors gnose, ça vient du grec, de gnosis, qui veut dire la connaissance. Mais pas la connaissance au sens, la connaissance en chimie, en physique, en biologie, en tout ce que vous voulez. C'est la connaissance au sens des secrets du divin, des mystères de l'univers, mais pas les mystères au sens scientifique, encore une fois, les mystères au sens soit théologique, métaphysique, surnaturel dans une certaine mesure, ou les questions existentielles qui sont d'où viens-je, qui suis-je et où vais-je, quel est mon destin, quelle est ma nature, quelle est la raison de mon existence et le sens de mon existence dans cette vie présente. La gnose, c'est cet accès à, enfin, c'est ces connaissances informelles, si l'on peut dire d'une certaine façon. Pour résumer en quelques mots, dans la pensée platonicienne, il y a l'idée que nous autres, nous sommes constitués d'un corps évidemment, mais également d'une substance spirituelle, une substance immatérielle, qui elle-même se décompose en plusieurs couches. Tout d'abord, une âme animale qui tente de répondre à nos besoins primaires, nourriture, sécurité, sexualité, et tout un tas de choses tout à fait primaires. Au-dessus, il y a l'âme émotionnelle, donc nos émotions, l'amour, la haine, la colère, la joie, la peur, tout ce que vous voulez. Et pour Platon, c'est bien au deuxième niveau, sur le plan que souvent, on nous dit, il faut être dans l'intuition, il faut être dans l'émotion, etc. Pourquoi pas? Mais chez Platon, il y a cette idée de dire, l'émotion, c'est une énergie, c'est une puissance, un carburant, Et ce carburant, ben, il faut l'encadrer, parce que sinon, vous le savez, par exemple, une colère, ça peut vous dévorer. L'amour, c'est très bien, mais l'amour non contrôlé peut vous amener dans tout un tas de péripéties, la haine, etc. Pareil pour toutes les émotions. Donc les émotions, c'est le deuxième niveau seulement chez Platon. Au troisième niveau, il y a logikon, l'âme logique qui permet de rationaliser, en fait, tout simplement, rationaliser l'émotion, rationaliser nos instincts et tout ce que vous voulez. Au-dessus, il y a l'âme intellectuelle, l'âme conceptuelle, qui permet de réfléchir, d'analyser, de contextualiser, de conceptualiser aussi notamment. Et puis finalement, il y a tout en haut le nous ou la gnosis, qui est la connaissance qui dépasse la nature humaine, mais qui serait l'accès au mystère du divin. Donc, gnose, c'est un terme en tant que tel qui vient de la philosophie grecque. Il va être réemployé régulièrement et principalement dans un cadre chrétien pour tenter de définir ce que serait justement un ésotérisme chrétien. Mais la première chose à comprendre, c'est que les origines de cet hypothétique ésotérisme chrétien, en fait, il puise dans des racines plus anciennes. Alors souvent, évidemment, quand on pense au christianisme, on se dit, bah oui, c'est évident, le christianisme, c'est une évolution ou c'est une transformation d'une religion précédente, le judaïsme, qui n'est plus réservé au seul peuple juif, mais qui est ouvert catholicos au monde. En ce sens, voilà, le christianisme hérite dans une partie, en effet, du judaïsme. Il y a tout un tas de précisions qu'on pourrait faire par rapport à tout ça, puisque le judaïsme est très loin d'être la seule source du christianisme, mais elle en fait partie. En revanche, quand on parle de l'origine de la gnose chrétienne, il faut chercher dans plusieurs éléments. Tout d'abord, on va pouvoir trouver des éléments substantiels dans le zoroastrisme, qui est une religion iranienne, perso-iranienne, qui apparaît au deuxième millénaire avant notre ère, et qui se caractérise par plusieurs éléments. Tout d'abord, l'idée qu'il y aurait un Dieu bon, ineffable, inaccessible, qui ne s'occupe pas directement des affaires humaines, mais qui manifeste sa puissance sous sept vecteurs, sept anges, sept grands esprits, peut-on dire, qui vont représenter des vertus ou des éléments fondamentaux dans le développement de l'âme humaine. Et puis, il y a l'idée du mal, qui est définie dans le cadre du zoroastrisme comme étant l'absence du bien. Donc le mal n'a pas d'existence au sens propre, mais c'est l'absence du bien qui définit le mal. On a également une variable, plus dans le mazdéisme, une variante du zoroastrisme plus ancienne, où là il y a vraiment deux concepts opposés, un dieu bon d'un côté et un dieu mauvais de l'autre. Donc là on a l'idée qu'il y a deux forces ontologiques primordiales qui sont en opposition constante et que nous autres humains, notre âme, notre libre arbitre, eh bien nous ballottons entre ces deux puissances et l'objectif évidemment est de tourner vers le bien et de ne pas céder au mal. Ça, c'est des éléments qu'on va retrouver plus tard dans certains courants du gnosticisme, comme on va le voir. Mais ce n'est pas les seules inspirations. On va trouver également des préludes ou des prototypes à la gnose chrétienne dans des religions à mystère du monde grec, notamment dans l'orphisme et dans les cultes à mystère de Eleusis, Samothrace, culte à mystère d'Isis et encore culte à mystère de Dionysos, par exemple. Dans ces cultes à mystère et aussi dans l'orphisme, il y a l'idée que nous avons une enveloppe matérielle, un corps physique, mais que nous avons une nature spirituelle qui habite ce corps. Et cette nature spirituelle, elle, elle est immortelle. Elle va survivre au corps physique. Le corps physique, lui, meurt, c'est un constat. Et cette substance spirituelle, eh bien, elle continuera son existence. Alors après, dans l'orphisme, il y a l'idée de métempsychose ou de réincarnation, l'idée qu'on a plusieurs vies successives. Mais l'idée dans l'orphisme, c'est de sortir du cycle de la réincarnation pour accéder à un autre état d'existence, un état d'existence qui est à l'origine des temps, c'est-à-dire un moment où l'homme marchait avec les dieux, si vous voyez l'idée. Un moment où nous n'étions pas rabaissés à cette condition humaine corporelle. Donc dans l'orphisme, l'idée c'est de se libérer du monde de la matière, accéder à la gnose, qu'à la connaissance des secrets du divin, pour retrouver notre état d'homme-dieu, tout simplement. Je résume, bien entendu. Mais ça, c'est des éléments constitutifs qui existent bien avant l'apparition du christianisme. Ensuite, on va trouver une autre inspiration avec des petites parenthèses. On va mettre un petit bémol, puisqu'on a quand même des incertitudes par rapport à cette source-là, mais on va les citer quand même. C'est la possible inspiration du bouddhisme. Alors pourquoi ? Vous allez me dire, le bouddhisme, ça apparaît pas vraiment dans le même secteur. Vous avez raison, mais là, il faut contextualiser l'histoire. Le bouddhisme, ça apparaît principalement au nord de l'Inde, Pakistan actuel un petit peu, et ça se développe entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère, dans la région du Gandhara, notamment au Pakistan actuel. Et à cette époque, au 4e siècle avant notre ère, eh bien c'est le moment où Alexandre le Grand conquiert l'Empire perse et va aller jusqu'à toucher les frontières de l'Inde, et notamment conquérir une partie du Gandhara. Donc, de ce fait, il y a eu, dans tous les cas, des échanges culturels et des cultures qui se sont rencontrées entre une culture bouddhiste dans ce secteur et une culture hellénistique dans ce secteur-là. D'où on peut hypothétiser quelques influences mutuelles entre la philosophie grecque et les sagesses asiatiques, notamment le bouddhisme. Alors dans le bouddhisme, on va trouver quelques éléments qui vont se retrouver en fait dans les différents visages de la gnose chrétienne. Premièrement, l'idée que le monde matériel n'est pas une bonne chose. L'idée que le monde matériel n'est pas quelque chose de bien, mais c'est une illusion. C'est pas seulement qu'il est mauvais, c'est qu'il est une illusion. C'est la maya. En fait, tout ce que l'on voit, toutes les choses auxquelles on s'attache dans la matière, eh bien tout ceci, c'est des attachements qui piègent notre âme dans ce monde répétitif, dans un cycle de réincarnation. Hein, les bouddhismes aussi croient à la réincarnation. Donc nous sommes piégés dans ce cycle de réincarnation corporelle qui est une illusion. Il faut prendre conscience de cette illusion, se libérer de nos attachements au monde de la matière pour espérer atteindre l'éveil, l'illumination ou atteindre le nirvana, l'état de bodhicitta, tout simplement. Et ça, c'est des éléments qu'on va retrouver dans les gnoses, les différents visages de la gnose. Alors vous allez me dire, ben oui, mais là, dans le bouddhisme, on n'est pas sur de l'ésotérisme bouddhiste, on est sur du bouddhisme tout à fait classique. Oui, vous avez tout à fait raison. Il existe après des versions bouddhistes très particulières, qui interviendront un petit peu plus tard, mais là, nous sommes sur du bouddhisme classique. Néanmoins, c'est quand même des éléments constitutifs probablement des gnoses chrétiennes, puisque c'est des éléments qu'on ne va pas retrouver dans le christianisme dit exotérique ou dit classique, si je puis dire, notamment le catholicisme, protestantisme ou orthodoxie, mais que l'on va trouver dans les versions ésotériques chrétiennes. Donc, et c'est intéressant. Dernière source d'inspiration, elle est évidente, on va la citer quand même, c'est la mystique juive. Le judaïsme d'avant l'apparition du christianisme est une religion qui est assez pratico-pratique, assez matérialiste, au sens c'est principalement basé sur des codes de loi, des systèmes de fonctionnement dans la société, dans le mode de vie, de choses à faire, de choses à ne pas faire. Donc ce qui va être légal, peut-on dire, ce que l'on doit manger, comment on doit se comporter, les règles du mariage, tout un tas d'autres choses. Mais néanmoins, au-delà de ce judaïsme commun, qui lui-même a des variables hein, suivant les différentes écoles, on va trouver des écoles juives qui ont une perspective mystique. On le voit dans la littérature, notamment avec des textes comme le livre d'Hénoc, l'Apocalypse de Baruch, l'Apocalypse d'Esdras, ou encore les visions d'Isaïe, par exemple, qui sont des textes à portée mystique, avec l'idée d'une ascension céleste, l'idée qu'il y aurait plusieurs plans d'existence, l'idée qu'il y a des puissances intermédiaires, tout un tas d'éléments qui vont constituer le cœur de la mystique juive. Alors, ce n'est pas spécifique à la mystique juive, on va trouver la même chose dans le monde grec d'ailleurs, mais c'est des éléments qui existent dans la mystique juive et qu'on va retrouver dans une certaine mesure dans les différents visages de la gnose chrétienne. Alors ça, c'est pour les premiers éléments avant la gnose chrétienne. Maintenant, nous arrivons au premier siècle de notre ère et faisons un petit point sur le christianisme des premiers siècles. Évidemment, aujourd'hui, il y a plusieurs visages au christianisme que l'on peut identifier, mais qui sont néanmoins pour la plupart assez proches, du moins pour les courants les plus importants. Il y a évidemment l'église catholique, évidemment les différentes églises protestantes ou réformées, et l'église orthodoxe. Ils ont des différences évidemment, notamment sur la place de la Vierge Marie, par rapport aux protestants qui ne sont pas d'accord, sur les sacrements, des petites variables aussi, il y a également des petites variables sur les saints, les anges, etc. Mais il y a quand même un fond assez commun. Pour prendre le cas du catholicisme, il y a l'idée que l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, Jésus vient renouveler l'Alliance et la transformer, c'est-à-dire qu'il vient abolir l'Ancienne Loi pour apporter la Nouvelle Loi, tout en, toujours dans le catholicisme, précisons-le, il conserve l'héritage de l'Ancien Testament, mais avec l'ajout du Nouveau. Donc les textes, les quatre évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais également les Actes des Apôtres, les Épîtres, etc., plusieurs textes, et finalement le livre de l'Apocalypse. Donc tout un ensemble de textes qui sont des enseignements, mais ces enseignements, dans l'Église catholique, ne sont pas la parole de Dieu. Ils sont l'interprétation d'hommes Quant à la parole de Dieu, pour les catholiques toujours, puisque Jésus étant Dieu lui-même dans la théologie chrétienne, et donc en ce sens, les évangiles, c'est l'évangile selon Jean, selon Matthieu, selon Marc, etc. Ce n'est pas l'évangile de Jésus où Jésus a dit ça. C'est une interprétation par rapport à comment l'apôtre, ou l'auteur du moins, a perçu cet enseignement et va le transmettre. D'où, de base, rien qu'avec ce corpus de textes à l'origine, eh bien, il y a ensuite des théologiens, qu'on va appeler la tradition patristique, les pères de l'Église, qui vont tenter d'interpréter ces textes, tenter d'aller plus loin, c'est pas les corriger, mais tenter de dire ce qu'ils veulent nous dire, tenter de les appliquer, etc. Et on va voir que suivant les pères de l'Église, il va y avoir une réflexion extrêmement prolifique sur qu'est-ce que l'enseignement en fait de Jésus. Et puis finalement, toute cette tradition patristique va plus ou moins converger et se mettre à peu près d'accord vers le IVe siècle, ce qui aboutit au premier concile de Nicée. Puis il y en aura d'autres après par la suite, puis on aura encore d'autres penseurs, hein, notamment comme saint Augustin par exemple, qui fait que, encore là, le dogme de l'Église catholique va continuer à se structurer au gré du temps par rapport aux réflexions des théologiens qui vont venir au gré du temps. Et ça ne va pas s'arrêter à saint Augustin, hein, ça va continuer avec de nombreux théologiens au fil des siècles, ce qui fait que très régulièrement, c'est pas tous les ans, hein, mais il y a le dogme de l'Église catholique, il peut évoluer très légèrement. Il n'est pas limité au seul texte, au texte du Nouveau Testament. Donc voilà un petit peu le début du christianisme dans les textes qui sont des interprétations de l'enseignement de Jésus, puis la littérature patristique qui est l'interprétation des textes originaux, peut-on dire. Donc vous voyez, déjà, tout le monde n'est pas spécialement d'accord au départ. Il n'y a pas un seul christianisme au départ. Et c'est là que vont apparaître dès l'origine, c'est-à-dire fin 1er siècle ou 2e siècle, une variable du christianisme qui se veut ontologiquement de nature ésotérique. Avant de l'exposer, reprenons le cadre du catholicisme, qui se structure à partir du 4e siècle réellement et va continuer son chemin. Dans le catholicisme, il n'y a pas d'ésotérisme pour une raison extrêmement simple. La révélation a été donnée, tout est là dans les textes, et donc nous pouvons les interpréter, bien sûr, tout à fait logique, mais néanmoins, il n'y a pas l'idée qu'il y aurait une connaissance secrète réservée à une poignée d'initiés. Donc toute nature de rite d'enseignement initiatique secret est bannie de l'Église catholique. De plus, comme nous allons le voir au cours de cette émission, il y a tout un tas de postures dans l'ésotérisme chrétien qui vont être des doctrines déclarées hérétiques ou des postures théologiques déclarées hérétiques. Alors revenons justement dans le passé, 1er, 2e siècle, nous allons avoir l'apparition d'un ésotérisme chrétien, alors avec certaines figures bien connues, comme Simon le Magicien tout d'abord, puis Basilide, Valentin d'Alexandrie, Corpocrate, Marcion dans une certaine mesure, et Épiphane, et tout ce que vous voulez. Toutes ces personnes vont développer une vision qui, ils partagent de nombreuses différences entre eux, mais ils vont tous s'accorder, tous ces courants dits du gnosticisme, et j'emploie le terme de gnosticisme, ils vont s'accorder sur un point essentiel, enfin sur plusieurs points essentiels, qui sont, tout d'abord, l'idée qu'il y a deux principes. Pour les adeptes du gnosticisme, et je n'emploie pas le terme de gnose ou de gnostique, gnosticisme, il y a deux principes, l'un bon et l'autre mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, tout comme le masdéisme des temps passés, il y a l'idée que il y aurait un Dieu père-mère, ineffable, inaccessible, lointain, qui serait le créateur de toutes choses au sens spirituel, et qui serait ontologiquement bon, et qui serait la lumière pure, si l'on peut dire, mais il y aurait à côté de cela un principe mauvais, un principe du mal, qui serait le créateur du monde de la matière. Tous les courants gnostiques sont d'accord avec ce point de base. Ensuite, il va y avoir des nuances, c'est-à-dire que certains vont être dans ce qu'on va appeler un dualisme absolu et d'autres dans un dualisme relatif. Alors le dualisme absolu, c'est quoi? Ça consiste à dire que le Dieu père-mère ineffable lointain, il est tout-puissant au-dessus et que le principe du mal ou le mauvais démiurge ou le faux Dieu, il est inférieur à lui. Donc il y aurait quand même un écart entre le vrai Dieu et le faux Dieu qui serait mauvais mais inférieur. Le dualisme absolu, quant à lui, c'est l'idée que les deux puissances sont équivalentes. Donc le bien et le mal sont parfaitement opposés et en équilibre. La plupart des mouvements du gnosticisme chrétien appartiennent au courant du dualisme relatif. Néanmoins, plus tard, on va avoir par exemple le manichéisme, qui lui est plutôt dans un dualisme absolu. Donc il y a des petites variables, mais retenez l'idée, il y a deux principes, le bien, le mal, et le mal est responsable de la création du monde de la matière. Comme les bouddhistes, le monde de la matière est une illusion, il ne faut pas s'y attacher. Comme dans l'orphisme, les corps mortels vont disparaître, il ne faut pas s'y attacher, la vraie vérité est au-delà. Ce concept du bien et du mal, il sera déclaré hérétique par l'église de Nicée, par certains pères de l'église, et aujourd'hui il est toujours déclaré hérétique par l'église catholique, et aussi par les protestants et les orthodoxes. Le deuxième principe fondamental des différents courants du gnosticisme, c'est que le monde de la matière, c'est pas seulement qu'il est mauvais, c'est que c'est une prison. En gros, avec des histoires différentes suivant les différentes écoles gnostiques, il y a l'idée que le mauvais dieu ou le mauvais démiurge aurait créé des corps de matière afin d'emprisonner nos âmes à l'intérieur de ces corps de matière. Le but étant que, avec cela, ce qu'on va pouvoir considérer comme étant la chute, des êtres spirituels, de pur esprit, les humains, ont été précipités dans le monde de la matière et enfermés dans une boîte, le corps, et cette boîte nous empêche la connexion avec le véritable Dieu lointain, ineffable, la pure lumière. Donc en gros, nous sommes des êtres divins, mais séparés de la lumière originelle. Nous sommes orphelins, en ce sens. Donc en ce sens, le monde de la matière est fondamentalement mauvais, c'est le monde de la souffrance, c'est le monde de la destruction, c'est le monde des passions négatives, de la colère, de la haine, de tout ce que vous voulez, des épidémies et de la mort, et tout un tas d'horreurs qui sont en fait une prison. Et pire que ça, une fois que notre corps meurt, nous nous réincarnons dans le monde de la matière pour recommencer perpétuellement ce cycle au sein de la prison. Ça, c'est une posture qui est partagée par tous les courants du gnosticisme. Vient ensuite un troisième concept qui est présent dans toutes les écoles du gnosticisme, c'est le concept de l'émanation. Alors, c'est très simple. Dans l'église catholique, par exemple, et aussi chez les protestants, chez les orthodoxes ou chez les témoins de Jéhovah, il y a le Dieu créateur de toutes choses. Il est le créateur et nous sommes la créature. Dieu nous crée à son image, mais nous sommes bel et bien sa fabrication. C'est un acte conscient volontaire de créer. L'homme, la femme, etc. Vous connaissez tout le schéma. Dans les différents courants du gnosticisme, ce n'est pas comme ça que cela est présenté. Nous sommes des émanations de Dieu. Dieu ne nous crée pas, nous émanons de lui. Alors émaner de lui, c'est totalement différent, puisque ça veut dire que nous sommes une projection de lui-même. Nous sommes une substance divine qui est issue de Dieu et projetée à l'extérieur. Donc en gros, nous sommes des parcelles, des fragments de la lumière divine des origines, dans ce concept de l'émanation. C'est un concept qu'on va retrouver de façon quasi copier-coller dans la Kabbale juive par exemple, qui est totalement antinomique avec la pensée du judaïsme commun, bien entendu. Mais pour revenir au gnosticisme, donc dans cette idée d'émanation, nous sommes des fragments de lumière divine émanés du Dieu ineffable. Ces fragments de lumière divine ont été capturés ou emprisonnés par le démiurge dans des corps de matière, ce qui fait que nous avons oublié que nous sommes des êtres émanés de la divinité dans cette lecture. Quatrième concept qui est fondamental dans toutes les écoles du gnosticisme, je vous rappelle, on est sensiblement au deuxième siècle de notre ère, hein, le christianisme est toujours en formation, eh bien, il y a le rejet total de l'Ancien Testament. Alors, j'ai commencé mon introduction tout à l'heure en vous disant, ah oui, mais en fait, du coup, le principe même du christianisme est qu'il est une évolution du judaïsme, et donc de ce fait, il reprend l'héritage, ce que du moins en fait le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme, ils reprennent l'héritage de l'Ancien Testament et y ajoutent le Nouveau Testament, la réforme christique, si l'on peut dire. Eh bien, les adeptes du gnosticisme, ils disent ça, c'est impossible, puisque le Dieu de l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le Dieu de Jésus. Pour les adeptes du gnosticisme, le Dieu de l'Ancien Testament est un tyran sanguinaire, sauvage, c'est une suite de massacres, de privations, et en gros, ils vous disent, bah, en fait, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le mauvais démiurge, c'est le mauvais Dieu des adeptes du gnosticisme. Donc le véritable Dieu Père Mère ineffable, c'est le Père de Jésus, au sens gnosticisme, et puis le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le mauvais démiurge, le principe du mal, dans cette lecture. Alors ça, c'est parfaitement développé dans la pensée de Marcion de Sinope, qui, justement, milite pour que soit rejeté l'Ancien Testament, du moins que l'Ancien Testament ne soit pas repris. Pourquoi le catholicisme a repris l'Ancien Testament? Eh bien parce qu'au tout début, dans les différentes mouvances de l'Église, il y avait donc des tendances, et parmi ces tendances, il y a eu l'école principalement de Paul de Tarse, Paul de Tarse, de Pierre, l'apôtre dans une certaine mesure, et de Jacques le Majeur, qui eux étaient dans cette idée de continuité avec le judaïsme, alors que inversement, d'autres courants vont plutôt se rapprocher de la philosophie grecque et des cultes à mystère grecs. Et donc, justement, les adeptes du gnosticisme, eh bien, ils ne reprennent pas l'héritage du judaïsme, mais eux, ils reprennent plutôt l'héritage issu des cultes à mystère, ou de leurs fils, ou de certaines traditions philosophico-mystiques du monde hellénistique, ou gréco-égyptien, même pour aller plus loin, en l'occurrence. Donc ça, c'est les éléments de tous les adeptes du gnosticisme. Le dernier point, et c'est le plus important, c'est l'accès au salut. Pour les adeptes du gnosticisme, c'est ici que l'on va trouver la notion purement ésotérique et qu'on va pouvoir vraiment employer le mot d'ésotérisme chrétien. Puisque avec tout ce que je vous ai dit jusque-là, à la limite, c'est un enseignement public, on peut le méditer, le réfléchir, mais on n'est pas spécialement dans une démarche ésotérique, c'est un enseignement théologique différent, c'est tout. Mais le dernier élément nous fait plonger directement dans l'ésotérisme, c'est l'idée de l'initiation. L'initiation qui veut dire, pour les adeptes du gnosticisme, les humains se répartissent en trois catégories. Les êtres illiques. Les êtres illiques, c'est les gens qui sont piégés dans les corps de matière, mais au point qu'ils sont complètement déconnectés de la lumière divine, au point qu'il n'y a quasiment aucun espoir de salut. Ce sont des êtres qui vont disparaître perpétuellement dans le flot des réincarnations. Mais il y a des êtres psychiques, et ces êtres psychiques, eux, ils ont cette aspiration, parfois inconsciente, mais cette aspiration à comprendre, à rechercher la gnose, et donc à se sortir de ce cycle. Et puis il y a les êtres pneumatiques, ceux qui sont en partie déjà sortis, en l'occurrence. Mais nous n'en sommes pas là, visiblement, du moins dans ce modèle de croyance. Alors, du coup, dans ces écoles du gnosticisme, il y a des cercles où tout le monde ne va pas avoir accès. Seule une poignée d'individus vont pouvoir accéder à ces cercles d'enseignement, étudier ces enseignements et participer à des rites dans le but d'accéder à cette connaissance. Donc en gros, il y a l'idée d'une étude théorique et d'une opérativité pratique. Pour prendre un exemple, la messe est un rituel qui est public, au sens où tout le monde y a accès. Eh bien, les adeptes du gnosticisme, ils font la même chose, ils ont leur propre messe, si l'on peut dire. On ne va pas appeler ça une messe, on va appeler ça un rituel. Et ces rituels ne sont pas accessibles à tous. Donc, pas accessibles à tous, qui dit initiation, et donc qui dit une démarche de facto ésotérique. Alors, c'est un non-accès à tous, non pas par privation, disons, toi t'as le droit, toi t'as pas le droit. C'est l'idée que pour y accéder, il faut montrer une volonté, une persévérance, et aussi un intérêt suffisant. Quelqu'un qui vient juste faire du tourisme ne serait pas accepté dans ces écoles du gnosticisme de l'Antiquité. Quelqu'un qui vient suivre l'enseignement public, qui ensuite s'y intéresse, qui fait des recherches, qui montre une bonne volonté et une démarche, eh bien sera initié à ces écoles à mystère dans un cadre chrétien, donc un ésotérisme chrétien. Alors ça, ce gnosticisme de l'Antiquité, je résume très rapidement, dualisme, le principe du bien, le principe du mal, l'idée de l'émanation, nous sommes émanés de la divinité, nous sommes emprisonnés dans des corps de matière à cause du mauvais démiurge, et les adeptes du gnosticisme associent ce mauvais démiurge au dieu de l'Ancien Testament. Donc ils rejettent l'héritage du judaïsme. Le salut s'obtient par l'accès aux connaissances secrètes, l'initiation, qui permet d'accéder à retour à l'état primitif, donc retour à notre essence originelle de nature divine, émanée de la divinité, la vraie lumière, une fois qu'on se sera libéré des entraves de la matière. Libéré, pas par la mort, mais par la connaissance, par la gnose. Si vous mourrez sans état de gnose, eh bien vous vous réincarnez, en fait, tout simplement. Mais si vous accédez au salut, eh bien lorsque vous mourrez, vous ne vous réincarnerez plus, vous serez un autre état d'existence purement spirituel, dans la pensée de ces écoles du gnosticisme. Mais, L'ésotérisme chrétien prend également un autre visage. Là, il serait un peu facile et surtout beaucoup trop réducteur de dire « Ah bah oui, en fait c'est facile, il y a les adeptes du gnosticisme, ça c'est les chrétiens qui sont dans une démarche de connaissance, c'est en fait les gnostiques, du coup c'est les gnostiques qui sont dans l'ésotérisme, alors que les cathos, les protestants ou les orthodoxes, eux c'est exotérique, c'est pour la masse, et avec des dogmes, etc. et ils ont fait des massacres. » Mais ça c'est caricatural et beaucoup trop simpliste. En réalité, ce que je vous ai présenté, si j'emploie bien le terme de gnosticisme, c'est parce que ça définit un courant particulier. On peut employer un autre mot, on va parler de gnose dualiste. Principe du bien, principe du mal. Mais il y a une autre forme d'ésotérisme chrétien qui va prendre le nom de gnose non dualiste pour la différencier. Alors, c'est quoi la spécificité ou les spécificités de cette gnose non dualiste? Eh bien, la première chose, c'est, posons la question, y a-t-il une perception de nature gnostique au sein même des textes du Nouveau Testament? La question est posée. Et la réponse, pour certains, est oui. À commencer par Paul de Tarse. Paul de Tarse, dans ses épîtres, nous dit à un moment donné qu'il y a un enseignement et que cet enseignement doit être cherché. C'est pas l'idée, boum boum boum, Jésus vous a donné tout ce qu'il fallait, allez, c'est bon, vous êtes sauvés. Non, 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 il a donner un enseignement, entendre celui qui peut entendre, voir celui qui peut voir, et à l'intérieur de cet enseignement, il va falloir chercher la vérité. Donc certains des pères de l'Église ont interprété Paul, les épîtres de Paul, comme déjà l'idée qu'il y avait un ésotérisme, et donc une gnose, dans les textes du Nouveau Testament. Plus loin encore, l'évangile de Jean, très important l'évangile de Jean. Si on a dit qu'il y a une partie des premiers chrétiens qui décident de reprendre l'héritage du judaïsme pour faire une évolution du judaïsme, enfin pour faire du christianisme une évolution du judaïsme avec la reprise de l'Ancien Testament, eh bien il y a aussi un texte comme l'évangile de Jean qui lui, de base, pose des questions, et même de nature dualiste, notamment dans le prologue. Il y a toute la présentation sur la lumière qui vous dit à un moment « la lumière est venue témoigner, etc. » et les ténèbres ne l'ont pas compris, ne l'ont pas reçu, sur les traductions. Donc il y a l'idée dans l'évangile de Jean, dès le prologue, qu'il y aurait un principe du bien, la lumière, et un principe du mal, les ténèbres, qui sont là. On n'en définit pas la nature, l'origine, etc. Mais il y a l'idée lumière-ténèbres. Les deux existent, donc le mal existe. Donc. Et donc, certains y ont vu, de ce fait, dans l'évangile, selon Jean, l'idée d'un dualisme, en réalité. Pourquoi pas ? Il y a aussi, évidemment, dans l'évangile selon Jean, tout un tas de préceptes de nature ésotérique ou ce qui seront interprétés comme tels par certains pères de l'Église et des théologies intérieures. Pour tout le détail de l'évangile selon Jean, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'un an sur cet évangile. Pour l'instant, continuons. La première chose à comprendre, c'est que la gnose non dualiste, donc qui n'est pas du gnosticisme dans le christianisme, va naître en s'inspirant des adeptes du gnosticisme que l'on a présenté juste avant. Alors, néanmoins, bien qu'ils s'en inspirent, ils vont avoir des différences radicales. La première différence, c'est que pour les adeptes de la gnose non dualiste, donc d'un ésotérisme chrétien non dualiste, eh bien vous l'avez compris, c'est le principe originel unique. Il n'y a pas dans cette gnose non dualiste l'idée d'un dieu bon et d'un dieu mauvais. Il n'y a pas l'idée de deux pôles antagonistes complémentaires, il y a l'idée qu'il y a un seul et unique Dieu, omnipotent, omniscient, tout ce que vous voulez, à l'origine de toute chose. En gros, Dieu est tout seul comme cause première, il n'y a pas de copain maléfique, mais de ce fait, il n'est pas non plus responsable du mal. Alors là, vous allez me dire, ben oui, mais le gnosticisme, c'était bien pratique, parce que ça donnait une raison logique au problème du mal. Ben oui, les adeptes de la gnose non-dualiste, eux aussi, ils vont chercher une réponse à ce problème. Alors, la différence, c'est que dans le gnosticisme qu'on a vu juste avant, ce n'est pas l'homme qui est responsable de la chute qui est responsable du mal, c'est le mauvais démiurge ou le mauvais dieu qui est responsable du mal en nous enfermant dans un monde maléfique. Dans la gnose non-dualiste, eh bien, c'est nous les coupables. Ça reprend un christianisme, enfin, ça reprend comme le catholicisme, hein, l'idée qu'il y a une chute première, c'est de la faute de l'humain qui pêche par orgueil et qui sombre dans la matière. Mais comment ils vont expliquer tout ça? Eh bien, dans la gnose non dualiste, certes, il n'y a qu'un principe unique à l'origine de toute chose, mais néanmoins, ils ont conservé le concept de l'émanation. Ils ne reprennent pas l'idée de création, mais d'émanation. Sous-entendu, Dieu, nous émanons de lui comme des êtres pure lumière qui émanons de lui, mais de tous ces êtres émanés, pure lumière émanant de lui, les humains, du moins Adam et Ève, dans la représentation, ont péché par orgueil de l'expérimentation. Et ce désir les prive de la lumière première. Cette privation originelle fait que Dieu se trouve dans la nécessité de créer un espace adapté pour les humains. Et cette nécessité engendre la création du monde de la matière qui est imparfait, mais qui est la conséquence de la chute de l'homme. En gros, si vous voyez l'idée, c'est tout aussi tarabiscoté que l'autre, hein. L'idée étant que Dieu, des êtres émanés de Dieu pure lumière, ces êtres de lumière veulent expérimenter, et en expérimentant hors de cette lumière, ils vont chuter de leur état initial de pureté. Dieu se retrouve dans l'obligation, la nécessité de créer un espace pour accueillir la chute de ces êtres. Donc nous sommes responsables de notre chute, nous sommes responsables de la création du monde de la matière, et c'est cette phrase qui pose énormément de problèmes, la nécessité pour Dieu. Mais si Dieu est omnipotent, il n'a aucune nécessité, il fait ce qu'il veut. Et c'est pour ça que ces courants de la gnose non-dualiste seront eux aussi déclarés comme hérétiques, mais quelques siècles plus tard seulement. Il faudra prendre un petit peu de temps. Alors, le principe du mal, c'est donc notre faute dans cette lecture-là. Voyons plus précisément dans cette gnose non-dualiste quels en sont ses représentants, par exemple. Eh bien, le premier qu'on peut citer, c'est Clément d'Alexandrie. Alors, Clément d'Alexandrie, c'est un des pères de l'Église, hein. Clément d'Alexandrie, dans ses Strobae notamment, dit textuellement, alors je le lis avec mes mots, je n'ai pas la citation sous les yeux, il dit « Il y a en gros la religion publique, avec toutes les choses que nous sommes d'accord, mais il y a un enseignement secret pour les gnostiques. » Et il emploie le terme de « gnostique », ceux qui accèdent à la gnose. Donc en gros, l'idée pour Clément, elle est extrêmement simple. Il y a la religion publique et au-delà de cet enseignement initial, qui est le fait des communs, enfin qui est pour le commun, eh bien au-delà de cet enseignement initial, il y a des vérités plus subtiles qu'il faut aller chercher, donc ésotériques. Donc Clément d'Alexandrie croit à l'émanation des êtres, il croit à l'idée qu'une recherche de connaissances secrètes est nécessaire pour percer les secrets du divin, et plus loin que ça, il considère que dans les textes des origines, dans l'enseignement de Jésus, la gnose, elle est déjà là, mais voilée. Il ne suffit pas d'aller chercher ailleurs, elle est déjà là, mais voilée. Et ça, c'est typiquement ésotérique de dire, oui, vous avez le texte sous les yeux, mais seuls ceux qui seront armés et équipés pourront le voir. Donc, ce n'est pas du tout du gnosticisme. Clément d'Alexandrie condamne le dualisme. Il condamne les positions des adeptes du gnosticisme. Mais néanmoins, il défend l'idée d'une gnose chrétienne. Et pour ce faire, il emploie, alors, c'est pas lui qui l'emploie, mais on va voir Irénée de Lyon, par exemple, qui emploie le terme, de la fausse gnose quand il parle des adeptes du gnosticisme. Et si fausse gnose pour le gnosticisme, ça veut dire qu'il y a une vraie gnose. Et cette vraie gnose est, par exemple, très bien représentée par Clément d'Alexandrie, du moins à leur point de vue. Je n'ai pas encore de dire qui a raison ou qui a tort. Mais ça va aller beaucoup plus loin, la gnose non-dualiste. Avec une autre figure qui succède à Clément d'Alexandrie, c'est Origène. Alors Origène, ce n'est pas un père de l'Église, pourtant c'est un des plus grands théologiens de la période patristique. Pourquoi il n'est pas un père de l'Église? Eh bien parce que certaines de ses thèses ont été déclarées hérétiques ou contradictoires avec le dogme. On a posé l'opprobre sur certaines de ses thèses, mais au VIe siècle, donc bien après sa vie. Donc là, petit point chronologique, le gnosticisme, les courants qu'on a présentés en premier, se développe entre le 1er et le 3e siècle, encore un petit peu au 4e siècle, et ils sont déclarés hérétiques dès le départ. Et au 4e siècle, ils disparaissent quasiment tous. Ils sont déclarés hérétiques immédiatement. Alors que les thèses par exemple de Origène, de gnose non dualiste, qu'on va appeler gnostique, eh bien elles sont donc déclarées plus ou moins hérétiques seulement au 6e siècle, donc 2 siècles plus tard, 2-3 siècles plus tard. C'est quoi la spécificité d'Origène? Plusieurs choses. C'est lui qui développe vraiment cette idée de nécessité pour Dieu de la création du monde matériel. Dans la pensée d'Origène, il ne s'agit pas de dire que Dieu est obligé de le faire, au sens où il n'a pas le choix, hein, voilà, pour créer un petit espace, un petit bassin pour que les humains s'amusent. Non. Dans cette idée d'Origène, c'est dans une idée de bienveillance. L'idée étant dire, l'homme a chuté par sa faute, dans son désir d'expérimentation. Cette chute fait qu'il a besoin d'un cadre, non pas pour souffrir, mais un cadre pour travailler au retour de cette lumière originelle. Donc en gros, pour Origène, Dieu crée, les êtres expérimentent chutent, Dieu crée un espace de réception pour les recevoir afin qu'ils puissent remonter un jour. Et toujours c'est Origène, il y a l'idée de dire, et ça c'est fondamental à l'époque, que en gros, les mythes de la Genèse ou de l'Ancien Testament, il ne faut pas les lire au premier degré. Eux aussi, il y a l'idée qu'il y a une gnose. Sous-entendu, quand on vous dit Adam et Ève dans un jardin et qu'ils vont devenir tout nus, on va leur mettre des peaux de bête, ne le lisez pas comme une image littérale, c'est une image symbolique pour représenter des idées et des concepts. Et là, en fait, on voit qu'Origène reprend tout à fait les idées des cultes à mystère antiques, un petit peu des mystiques égyptiano-grecs, un peu de l'hermétisme, un petit peu la même idée, comme les mythologies antiques. L'idée, quand on vous parle de, je ne sais pas, du char céleste d'Apollon dans les cieux tiré par Héliosphoros, voyez-le pas comme un type avec des chevaux et une calèche, tout ce que vous voulez. C'est une image. Eh bien, Origène, il fait la même chose avec l'Ancien Testament. Pas de lecture au premier degré, mais il faut. En gros, pour aller plus loin même, Origène vous dit, la lecture au premier degré, c'est pour la masse. C'est pour donner quelque chose d'immédiatement compréhensif, voilà, pour dire, voyez l'idée globale, et puis ça va vous convenir. Mais, pour ceux qui cherchent, il y a une gnose à trouver, il faut décoder le mythe. D'où les plusieurs lectures de la Bible pour Origène. Et là, ça nous amène à une différence fondamentale entre la gnose non-dualiste, ou la gnose origéniste, et la gnose du gnosticisme des courants qu'on a cités juste avant, non de ceux qui sont dualistes. Eh bien, c'est que si les adeptes du gnosticisme rejettent totalement l'Ancien Testament, Origène, lui, reprend l'Ancien Testament et tous les adeptes de la gnose non-dualiste reprennent l'Ancien Testament. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont non-dualistes. Et ils disent, l'Ancien Testament, il ne faut pas le prendre littéralement, mais il faut l'interpréter, en gros. Alors ça, ça nous amène dans la dernière idée de la pensée originiste, c'est l'apocatastase. Et c'est là que la gnose non-dualiste va rejoindre la gnose dualiste. L'apocatastase, c'est quoi? C'est pas Origène qui l'a inventé. Ça existe déjà dans la philosophie grecque. C'est l'idée, en gros, que notre travail d'accès à la connaissance, notre travail d'éveil ou de quête du salut, a pour objectif que l'on revienne à l'état premier, à l'état primitif pur de notre existence. Chez les Grecs, par exemple, c'est l'idée de revenir à l'état où l'homme marche avec les dieux, où l'homme est un homme-dieu. Typiquement la pensée de l'orphisme. Mais quand on est dans la gnose chrétienne, l'apocatastase pour Origène, c'est de dire l'humain est un être de pure lumière, purement spirituel à l'origine, il a chuté pour tout un tas de raisons, il est piégé dans le monde de la matière pour tout un tas de raisons, et il doit revenir à cet état d'origine primitif de l'homme. Une réintégration à l'état premier. Et ça, c'est la même chose que les adeptes du gnosticisme, dualiste, qui certes mettent un principe mauvais dans l'histoire, mais qui disent à la fin, l'optique c'est de s'émanciper du monde de la matière pour retourner à l'état premier d'existence. L'apocatastase sera déclarée hérétique et condamnée par l'Église, au 6e siècle notamment. Pourquoi? Eh bien parce que l'apocatastase fonctionne en synergie avec le concept de l'émanation. Ce n'est pas possible autrement. En gros, je le fais simple, si vous avez Dieu créateur dans un système créationniste, vous avez Dieu qui crée hors de lui sa créature, et cette créature va chercher à obtenir le paradis, le salut ou la proximité avec la divinité, mais il ne fera jamais partie de la divinité, il n'est pas la divinité, l'extérieur à lui. Alors que quand on est dans l'émanation, vous avez la divinité qui s'émane, tout un tas de particules divines, d'êtres divins qui sont des fragments de la divinité, et l'apocatastase ou la réintégration consiste à revenir à cet état premier, pure lumière, et connecté au divin. Donc, l'apocatastase est déclarée hérétique, puisque dans le modèle catholique, protestant ou orthodoxe, eh bien, nous sommes dans un modèle de création et non pas d'émanation. Voilà pourquoi vous avez deux visages de l'ésotérisme chrétien qui existe. L'un qui est dualiste, l'autre qui est non-dualiste, l'un qui ne reprend pas et qui condamne l'Ancien Testament, l'un qui accepte l'Ancien Testament, le reprend et dit « il faut l'interpréter ». Vous en avez un qui considère que nous ne sommes pas responsables de notre chute, mais c'est un principe du mal qui est responsable de la chute. L'autre qui considère que nous sommes responsables de notre chute. Et au-delà de ça, ils sont d'accord pour dire que nous sommes des êtres en émanation, que nous pourrons accéder au salut et donc au retour à notre état initial primitif d'homme-dieu par l'accès à la connaissance, la gnose, tout simplement. Donc, existe-t-il un ésotérisme chrétien ? Eh bien oui, évidemment. Alors là, j'ai parlé évidemment principalement de l'Antiquité. C'était le but de définir la différence entre la gnose non-dualiste et la gnose dualiste ou le gnosticisme, bien dissocié les deux concepts. Et puis ensuite, il y aura des héritages de cet ésotérisme chrétien au cours des siècles. On va retrouver des rémanences de cet ésotérisme chez les Pauliciens, chez les Bogomiles, chez les Cathares, puis on va trouver tout le courant de l'hermétisme de la Renaissance, ou même de la cabale chrétienne de la Renaissance qui reprend, qui est toujours dans une démarche d'ésotérisme chrétien. On va voir ensuite le siècle des Lumières avec des figures comme Bœuf, puis on va voir un petit peu avant le rosicrucianisme, puis plus tard on aura même la franc-maçonnerie qui se place dans des démarches de gnose, dualiste ou non-dualiste. Alors la question que l'on pourrait se poser maintenant, c'est parmi tous ces courants qui vont hériter de cet ésotérisme chrétien, il a plusieurs visages différents suivant les cadres. Et donc on va voir quelques exemples pour voir ces différents courants de l'ésotérisme chrétien actuel. Est-ce qu'ils se rapprochent plutôt du gnosticisme, donc de la gnose dualiste, ou est-ce qu'ils se rapprochent plutôt de la gnose non-dualiste, plutôt origéniste ou alexandrienne de Clément d'Alexandrie? Eh bien, on va voir quelques exemples. Si vous avez le désir de me poser des questions, eh bien, vous pouvez me poser vos questions. Je vais tenter d'y répondre dans le chat juste après. Là, pour le moment, j'illustre quelques exemples. Vous avez, par exemple, le cas des Cathares. Alors, les Cathares, vous connaissez tous, c'est une hérésie médiévale qui apparaît 12e siècle, 13e siècle principalement, lorsqu'ils seront combattus, ils se terminent au 14e siècle, dans le sang. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, j'ai fait des vidéos sur le catharisme. Le catharisme, déjà lui-même, il a des nuances, suivant les endroits et suivant les époques. Mais le catharisme est-il une gnose dualiste ou une gnose non-dualiste? Tatatam, roulement de tambour. Eh bien, c'est très simple dans le cas du catharisme. Le catharisme est une réminiscence d'une gnose dualiste, donc de gnosticisme. Pourquoi ? Parce que les cathares rejettent l'Ancien Testament. Les cathares considèrent qu'il y a un principe du bien, le Dieu de Jésus, le Père de Jésus et Jésus même, et qu'il y a un principe du mal, le mauvais démiurge ou Satan, si vous voulez, et que le monde de la matière est l'œuvre du mauvais démiurge, et que donc le monde de la matière est une prison duquel il faut se libérer. Donc, en ce sens, le catharisme est une mystique chrétienne dualiste. Y a-t-il un aspect ésotérique ? C'est discuté. C'est une zone encore grise au niveau de l'étude historique. Les cathares ont des rites. Ces rites ne sont pas spécialement secrets, donc le consolamentum principalement, mais on ne sait pas s'il y a des rites à proprement secrets non accessibles dans le catharisme, ce qui définirait une nature ésotérique par enseignement initiatique. C'est discuté, gardons un petit peu de suspense sur cette question. J'évoque beaucoup, beaucoup plus en détail cette problématique dans mes émissions qui traitent de la question du catharisme. Maintenant, prenons un deuxième exemple d'une forme d'ésotérisme chrétienne pour voir si nous sommes dans le dualisme ou dans le non-dualisme. Eh bien, on va prendre la cabale chrétienne. Alors, la cabale chrétienne, c'est quoi en deux mots ? Vous connaissez tous la cabale juive. La cabale juive est une mystique juive qui vient d'un long processus d'évolution qui apparaît textuellement à partir du 8e-9e siècle de notre ère, donc pendant la période médiévale, qui se construit principalement sur du néoplatonisme grec, sur de l'hermétisme gréco-égyptien, sur de la mystique juive, bien entendu, notamment la littérature des palais célestes ou les littératures des Merkaba, donc l'idée d'ascension divine. Donc la Kabbale, la Kabbale est plus récente que l'ésotérisme chrétien. Et la gnose chrétienne va influencer très 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 largement la Kabbale. Et quand on dit la gnose chrétienne, eh bien on dit fatalement aussi le gnosticisme, puisque je vous rappelle que la gnose origéniste s'inspire de la gnose dualiste qui la précède. Donc dans la Kabbale, vous allez retrouver un petit peu tous ces concepts, notamment le principe du dieu lointain ineffable Ein Sof, puis le principe de l'émanation qui se manifeste par l'arbre des Séphiroth, les 32 chemins de la Chazès, etc., etc., tout ça. Puis qu'il y a la brisure des vases, Shivira HaKelim, donc avec l'engendration d'un arbre de mal, d'un arbre cliphote, comme on appelle ça, je ferai une vidéo sur le sujet. Bon, c'est pas pour faire toute l'histoire de la Kabbale, j'ai aussi fait des émissions sur la question, on va pas tout développer aujourd'hui. Tout ça pour dire que la Kabbale reprend l'idée d'émanation, l'idée qu'on accède au salut, à l'éveil, à la réunion avec le divin, par un chemin de connaissance, un chemin de gnose, tout simplement, avec toute une complexification propre à la mystique juive. Eh bien, la Kabbale chrétienne va reprendre, en fait, l'architecture de la Kabbale médiévale, la réadapter en y intégrant la figure de Jésus, etc., tout ça, et des spécificités propres au christianisme. Mais la Kabbale chrétienne se place dans un modèle non-dualiste. Non-dualiste, puisqu'il n'y a pas de principe du mal à l'origine de toute chose. Le principe du mal est une conséquence de l'émanation divine lors de la brisure des vases, ou une conséquence de la chute de l'homme, qui perd sa nature divine, mais il n'y a pas un dieu mauvais, un tartempion maléfique, qui serait à l'origine du monde matériel. De plus, dans la Kabbale chrétienne, le monde n'est pas maléfique, c'est un espace d'expérimentation, un espace de travail, mais ce n'est pas un monde maléfique. Il est brisé, il est abîmé, mais ce n'est pas un monde maléfique. Donc la Kabbale chrétienne est dans une gnose non-dualiste. Autre exemple, avec le martinisme ou le martinésisme, un courant illuminisme du XVIIIe siècle, avec la figure de Martinez de Pasquale. Martinez de Pasquale, lui, il vous dit, en sous-main, avec son ordre initiatique, une sorte de franc-maçonnerie, mais qui pratique des rituels de magie d'invocation, Martinez de Pasquale, lui, il vous dit, il y a Dieu, un Dieu ineffable lointain, pure lumière, pur esprit, il y a des êtres émanés de lui, les anges, les humains, etc., mais il y a eu la chute, ce qui engendre la création de la monde de la matière par la divinité, par nécessité, et on est complètement dans la pensée d'Origène. Et puis, il faut faire un travail sur soi afin de retrouver notre état premier, se réintégrer à cette nature primitive de l'être, etc. Donc, dans le martinisme, on est complètement dans la pensée d'Origène de l'Antiquité, et avec ça, on y rajoute un peu de magie opérative pour contacter les entités spirituelles pour nous aider à remonter. Mais au-delà des aspects rituels, nous sommes dans un ésotérisme chrétien initiatique, puisque rituel d'initiation, magie opérative en plus, mais nous sommes évidemment dans un modèle non-dualiste, puisqu'il n'y a pas de tartempion maléfique, c'est l'humanité qui est responsable de la chute et non pas un toto maléfique. Terminons avec un dernier exemple un peu plus sulfureux, mais qui justement mérite d'être analysé. C'est le courant du luciférisme ou du luciférianisme. Alors c'est quoi cette histoire-là ? Eh bien c'est aussi une forme de gnose. Le luciférianisme, c'est un courant de pensée qui apparaît majoritairement au XIXe siècle et au XXe siècle, qui vous dit, mais en fait Lucifer, ce n'est pas le mal, ce n'est pas Satan. Lucifer, c'est celui, le nom d'un dieu romain, celui qui porte la lumière, donc qui annonce la lumière et qui est le porteur de connaissances. Donc, dans le luciférianisme, il y a une idée qu'il y a un dieu bon qui représente l'ordre, un dieu mauvais qui représente le mal, le désordre, le chaos, c'est Satan. Donc il y a Dieu, l'ordre cosmique, Satan, le pouvoir chtonien infernal, et au centre, il y a Lucifer en tant que le porteur de connaissances, le porteur de libre arbitre. L'idée étant de suivre un chemin d'accès à la connaissance pour retrouver notre nature ontologique dans les adeptes du luciférianisme. Rien à voir avec les satanistes qui prient Satan pour faire du mal. Le luciférianisme, c'est une gnose qui est dualiste, vous l'aurez compris, puisqu'il y a ces deux principes du bien et du mal, et la figure de Lucifer en tant qu'archétype libérateur au centre, mais qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui est le porteur de connaissances, donc le porteur de gnose dans cette lecture. Donc là, ce sont des exemples de gnose dualiste ou non dualiste dans le cadre de l'ésotérisme occidental. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ces définitions et ces deux visions, ces deux perceptions de l'ésotérisme chrétien, pour vous montrer déjà que ça existe, l'ésotérisme chrétien bien entendu, même si toutes ces formes seront condamnées, par exemple par le catholicisme, puisqu'il y a toujours cette idée que la révélation est donnée à tous, et il n'y a pas l'idée de savoir secret ou d'initiation, tout ça, ça n'existe pas, mais néanmoins, on ne peut pas limiter le christianisme au catholicisme, on ne peut pas limiter le christianisme à l'orthodoxie ou au protestantisme, ni aux témoins de Jéhovah, ni aux mormons, ni à l'église copte, ni à l'église syriaque, à tout ce que vous voulez. Il y a énormément de formes de christianisme dès l'origine, et certaines sont ontologiquement de nature ésotérique, tout simplement. Maintenant, je vais aller voir vos questions, si vous en avez. Je vais en prendre quelques-unes. Je vous rappelle que je prends uniquement les questions des membres, ceux qui soutiennent mon activité économiquement, et en ce sens, je les remercie énormément. Excuse-moi, je suis un petit peu loin de mon ordinateur, alors je vais attraper ceci. Clac, clac, clac. Ah voilà, j'ai grossi un petit peu les icônes pour voir, pour essayer de distinguer vos questions. Alors, je commence par en haut, je remonte. Alors, je regarde s'il y avait des questions des membres. Julien Amaury Blaise, bonsoir Ludo, comme par hasard cette émission juste avant de finir mon pèlerinage à Lourdes demain. Eh bien écoute, je te souhaite une très bonne fin de pèlerinage, je souhaite un bel émerveillement dans ta quête, quelle qu'elle soit, le meilleur pour toi, j'espère que cela pourra t'apporter. Alors, ensuite, nous avons... Je cherche les questions des membres. Les membres, c'est ceux qui ont pseudo-vert, hein, ou les modérateurs, pseudo-bleu, bien sûr. Anaïs Akama nous dit « Le mystère des Templiers, Morgane dans le mythe arthurien, et ce soir la gnose, merci Ludovic pour tout ce miel à mon âme. » Ce n'est pas une question, mais je prends ton message qui fait très plaisir, ma foi, donc je le prends avec grand plaisir. Mais écoute, c'est des sujets qui, je pense, nous passionnent tous. Si vous suivez ces émissions, il y a plusieurs raisons possibles. Soit c'est parce que vous-même, vous intéressez à la spiritualité, vous avez vous-même une démarche de spiritualité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et vous cherchez à comprendre ces définitions, comprendre cette histoire de la pensée, pour voir étudier et plonger dans les concepts pour cheminer. Donc, cas numéro 1, vous êtes là parce que vous avez une démarche ésotérique et vous cherchez. Cas numéro 2, vous vous intéressez à l'histoire de l'ésotérisme par une quête culturelle pour tenter de comprendre comment ça fonctionne, comment l'idée humaine fonctionne, comment les systèmes de pensée fonctionnent au niveau religieusement. Et super, du coup, on peut explorer ces nuances, ces différents visages de la spiritualité humaine sur un plan culturel. Et puis, troisième option, eh bien, vous suivez les autres émissions de la chaîne, vous n'avez jamais entendu parler de ces sujets, mais vous aimez bien la chaîne et vous êtes là pour découvrir un nouveau sujet. Et dans ce cas, c'est très bien aussi. Donc, merci à tous de suivre ces émissions. Un message de Monsieur Meux qui disait « Sans souffrance, il n'y a pas de bonheur ». Ah oui, ça renvoie à la phrase de Nietzsche qu'on ne vit qu'entre deux drames. Comment connaître le bonheur si on ne connaît pas la souffrance? Comment connaître la souffrance si on ne connaît pas le bonheur? Là, ça nous amène à une dualiste de l'existence. C'est vrai, ça pose la question philosophique de « Le bien peut-il exister sans le mal ? Le mal peut-il exister sans le bien ?» L'idée du dualisme dans le gnosticisme, elle ne vient pas de rien, ça ne vient pas d'un caprice qui dit un tartempion maléfique, ça vient de l'idée de dire que tout dans la nature, c'est pour ça que le gnosticisme puise ses sources bien avant le christianisme, dans l'antiquité grecque, même égyptienne et mésopotamienne. L'idée c'est qu'il y a le jour, il y a la nuit, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a le froid, il y a le chaud, il y a le mouillé, il y a le sec. Tout est double dans la création, et ce tout double dans la création fait qu'on a toujours voulu expliquer la création par une binarité de ces forces opposées et complémentaires, un petit peu, comme le yin et le yang dans le taijitu du taoïsme, par exemple. Donc les concepts vont se retrouver sous des vocables différents, évidemment, dans les cultures. Mais, oui, est-ce que la souffrance peut exister sans le bonheur? Peut-être pas, justement. Aurions-nous conscience de notre bonheur si on n'avait pas conscience de la perte possible de ce bonheur ou de son acquisition possible? C'est intéressant philosophiquement. Alors, c'était pas forcément pour moi, mais je prends les messages des membres. Alors, je descends. Des questions des membres. Y en a-t-il d'autres? Bonsoir Mike, coucou à toi. Alors. Boudiou, il y a eu combien de courants gnostiques? Alors, courant du gnosticisme serait plus adapté. Dans le gnosticisme de l'Antiquité, on va retrouver plusieurs courants. Les basiliens, les corpocrates, les valentiniens, les barbélognostiques, les sétiens, les zophytes, etc. Tout ça. Mais globalement, dans le gnosticisme, on peut définir trois grandes familles. Trois grandes familles que sont la moins connue des trois, la plus sulfureuse, c'est ce qu'on va appeler les corpocrates, ou, enfin les corpocrates, c'est une des écoles, mais les barbélognostiques, c'est ceux qui vont considérer que le monde de la matière est mauvais, bien sûr, il y a un mauvais Dieu, etc., tout comme les autres, mais ils vont considérer qu'il faut épuiser les malheurs du monde. Le monde est maléfique, mais il faut épuiser la souffrance du monde pour libérer le monde. Alors du coup, les adeptes des barbélognostiques ont des rites assez salaces, assez obscurs, et parfois qu'on peut même considérer comme largement déviants par rapport à nos morales actuelles. Voilà, pour faire très simple. Je te renvoie à ma longue émission sur l'histoire du gnosticisme. On va trouver tous les courants des Sétiens, des Zophytes et des Nacéens, ou des Caïnites, qui eux vont vraiment, vraiment considérer que le mauvais Dieu de l'Ancien Testament, c'est vraiment le problème et qu'il faut vraiment s'opposer à lui. Donc il y a quelque chose de vraiment axé sur l'Ancien Testament au sens négatif, et que on va retrouver l'idée que le serpent du jardin d'Éden, est le porteur de la connaissance, celui qui nous libère du mauvais démiurge, c'est-à-dire du Dieu de l'Ancien Testament. Donc vraiment, tout est axé sur le serpent dans ce deuxième courant. Troisième courant, c'est celui des Valentiniens principalement, des basiliens dans une certaine mesure, où là on est plutôt dans les courants du gnosticisme très intellectuels, qui vont vraiment tenter d'établir une cosmogonie du monde, une compréhension de l'univers, principalement par la symbolique. Voilà, donc c'est les trois grandes écoles. Mais si tu veux toutes les précisions, je te renvoie à ma vidéo Histoire du gnosticisme, c'est une vidéo qui fait un peu plus de 2 heures, peut-être 3 d'ailleurs, je ne me rappelle plus, où je décortique justement ces différentes familles. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres connaissances que je vois? Je m'apprête à rentrer dans une église et Ludo a parlé de Lucifer. Oui, mais t'inquiète pas, tu sais, dans la Bible, la Vulgate, la version latin de la Bible, au tout début, à un moment, Lucifer est utilisé comme titre pour Jésus. Jésus est celui qui porte ou qui vient amener la lumière. C'était juste un titre à l'origine. Lucifer, c'était un dieu romain à l'origine, un dieu qui représentait l'étoile du matin et son frère Vesper, l'étoile du soir. Ce n'est que plus tard qu'il y a eu l'association du titre de Lucifer avec la figure du diable. Mais en soi, le terme Lucifer, il y a même des prêtres qui se sont appelés Lucifer jusqu'au 4e siècle. Alors, je regarde les questions des membres. Élodie nous dit, j'ai résolu la dualité en pensant que Jésus était la réincarnation de Lucifer Prométhée et transcende son mal. Ah bah, dans le luciférisme, oui, c'est plus ou moins ça l'idée. Hein. Dans une idée luciférienne, l'idée c'est que Jésus est Lucifer, il est celui qui porte la connaissance. Ça, on revient à l'idée. Oui, c'est une lecture possible. Alors, je ne suis pas là pour te dire laquelle est la bonne ou la mauvaise, bien entendu. Mais Lucifer, chez les lucifériens, est une figure prométhéenne, celui qui libère l'homme de la servitude en lui apportant la connaissance. C'est des figures comparatives, hein, en mythologie comparée, bien entendu. Jésus, d'une certaine façon, est lui aussi celui qui vient, dans un cadre chrétien, porter la connaissance aux hommes pour les libérer de leur état de péché. Donc on peut retrouver, oui, d'une certaine façon, Jésus est une figure luciférienne au sens porteur, celui qui porte la connaissance. Je bois une gorgée et je vais prendre encore quelques questions des membres. Macha Bijou nous dit, cette idée de obliger, de créer un espace pour préserver les humains, cela me fait penser à Jeu clair-obscur, c'est une des idées centrales du jeu et elle est bien développée dans le scénario. Alors je ne connais pas forcément ce jeu, mais oui, c'est une idée, c'est un concept. Alors évidemment, ce concept de nécessité divine de créer le monde de la matière, ça a été largement condamné par d'autres théologiens, bien évidemment. Dieu n'a aucune obligation. Dieu n'a aucune obligation, il n'est pas en nécessité d'eux. Donc, c'est évidemment une position qui fait débat. Alors, Anaïs nous dit, d'après toi, les Templiers auraient-ils pu avoir un certain rite gnostique? Alors, c'est pareil, quand on emploie le terme gnostique chez les Templiers, C'est toujours la même difficulté, dans quelle mesure, quel type de gnose, etc. Je pense qu'en revenant plus simplement à la question, on va la découper en fait. Tout d'abord, est-ce que les Templiers avaient une approche ésotérique au sens très très large? Les Templiers sont chrétiens, ça ne fait aucun doute. Mais dans quelle mesure et dans quelle forme de christianisme? C'est ça qui pose question. De ce que l'on sait au sens assez global, les Templiers sont quand même chrétiens assez classiquement. Mais ils ont un rite d'adoubement qui lui pose problème, avec notamment le crachat sur la croix et le reniement du Christ. Sauf que dans le déroulé du rituel, en fait, ce rite a pour fonction de vérifier si le Templier sera parfaitement fidèle à l'autorité de ses supérieurs, en lui demandant quelque chose d'atroce. Cracher sur la croix pour un chrétien, c'est atroce. Et une fois qu'il crache sur la croix, eh bien on le frappe, on lui met une rouste en lui disant, ne crache plus jamais sur la croix, mais c'est bien, tu as fait preuve d'obéissance. Et ce rite qui est transgressif a été condamné, est un des motifs du procès, en l'occurrence. Est-ce qu'ils avaient un rite ésotérique secret? On n'en a pas la preuve. On n'en a pas la preuve sur un plan historique. On n'a pas de document qui l'atteste. Et on n'a pas de source. En revanche, on a des indices, je dis bien des indices, qui dit qu'il y aurait pu y avoir au sein de l'ordre du Temple une structure interne, un ordre intérieur, on va l'appeler comme ça, et que dans cet ordre intérieur, il y ait pu y avoir une portée ésotérique, et notamment de gnosticisme. Et je dis bien de gnosticisme, donc de gnosticisme dualiste. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé notamment le sceau d'André de Couleurs, un contre-sceau, avec la figure d'un Abraxas. Donc un Abraxas, c'est une figure du gnosticisme, du courant des basiliens pour être précis, qui se retrouve sur un sceau templier, un contre-sceau templier, avec cette référence, ce texte, qui est le Secretum Templi, donc le secret du temple. Alors c'est un des indices qui nous amène à penser que au sein de l'ordre du temple, mais pas les templiers dans leur globalité, hein, ça faut abandonner l'idée que tous les templiers étant d'une démarche ésotérique, c'est pas cohérent. Par contre, une partie d'entre eux, un groupe interne, donc on a ce premier indice, on a un deuxième indice avec l'idée du Baphomet, c'est-à-dire de l'idole, qui n'est pas référencé partout. C'est-à-dire, quand on a les procès du temple, l'idole n'est pas mentionnée partout. On demande à tous les Templiers s'ils ont vu l'idole, on en a 80% qui disent qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais entendu parler. Et puis on en a 20% qui disent oui, on en a entendu parler, ou oui, on l'a vu. Et on a quelques descriptions, mais on n'en a pas énormément en fait. Donc on peut supputer en fait qu'il n'y a que quelques Templiers qui ont été mis en présence de l'idole et que ça pourrait avoir rapport avec un culte plus secret, donc de nature ésotérique. Et possiblement de gnosticisme, j'entends. Donc ça, c'est le deuxième indice. Troisième indice, évidemment, c'est que... alors c'est un indice rétroactif, ce n'est pas une preuve. C'est un indice rétroactif qui dit qu'on a tellement mythifié, tellement écrit sur le temple a posteriori, on leur a prêté tout et n'importe quoi. Mais le fait que le temple est autant marqué pose la question si ça n'aurait pas... Il aurait pu y avoir possiblement une survivance. Alors je mets des gros guillemets hypothétiques à tout ça. Une survivance, et cette survivance aurait pu possiblement piloter certaines structures ésotériques par la suite. Alors, c'est une théorie qui est défendue dans certains courants maçonniques ou certains courants rosicruciens. Comprenez qu'on n'en a absolument pas la preuve. On n'a aucune preuve de la survivance de l'ordre du Temple, du moins pas dans sa forme médiévale, mais c'est des indices qui nous amènent à dire pourquoi pas. L'idée que les Templiers ont détruit ça, ils ont détruit aucun doute, mais l'idée qu'un ordre intérieur ait pu subsister, voilà, avec des gros guillemets, c'est possible, évidemment. Donc, c'est une zone compliquée. Et puis, alors, quel type de rite, etc. Alors là, autant dire, on n'en a absolument aucune idée. Toute personne qui dira, les Templiers faisaient si précisément comme rite, c'est soit un menteur, soit quelqu'un qui a des visions mystiques et qui vous donne sa perception, mais on n'a pas de preuve historique. Alors, ça, je l'ai lu. Merci Maxime Moreau de nous avoir rejoint. Merci à toi Vincent Campello de nous avoir rejoint. Bonjour à toi Yannick de la chaîne des chercheurs. Un gros coucou. Alors, y a-t-il une question? La chaîne des chercheurs, Yannick nous dit, la gnose chrétienne en général a-t-elle un avenir proche ou lointain dans notre société? Ah oui, la gnose chrétienne est très vivante. Elle est très vivante, enfin très vivante, non, elle n'est pas très vivante, elle va pas bien, mais elle existe et elle a une continuité, on ne va pas s'arrêter demain. C'est-à-dire que la gnose chrétienne au sens extrêmement large existe toujours, parce que par exemple elle existe au sein de la franc-maçonnerie dans certains courants, elle existe dans le martinisme, qui existe encore de nos jours, le courant du martinisme existe encore, elle existe dans la Rose-Croix. Dans la Rose-Croix, on est clairement dans une thématique d'ésotérisme chrétien et de gnose chrétienne. Alors, dans le rosicrucianisme, on est plutôt sur une gnose non-dualiste, tout comme dans la franc-maçonnerie et tout comme dans le martinisme, on est plutôt sur des gnoses non-dualistes. En revanche, on a aujourd'hui toujours des gens qui se réfèrent au luciférianisme, qui sont dans une gnose dualiste. On a des courants néo-cathares qui tentent de repenser un ésotérisme chrétien. Alors, ils le reconstruisent, qu'on soit bien d'accord, c'est pas fidèle à ce qui se faisait historiquement, c'est une reconstruction. Mais ça n'empêche qu'on est sur des gens qui ont une démarche chrétienne d'ésotérisme et plutôt dualiste, on veut dire, si c'est des néo-cathares. Donc, non, on a des manifestations d'ésotérisme chrétien aujourd'hui. On a aussi tout un tas de gens qui ne se définissent pas spécifiquement comme chrétiens, mais qui sont quand même dans une démarche ésotérique et qui prennent des référents chrétiens, des références chrétiennes dans leur recherche. Alors, on ne peut pas parler de gnose chrétienne au sens premier du terme, mais on est sur des gens qui vont puiser, qui vont piocher un petit peu. C'est pas forcément grave. Après tout, la Kabbale s'est construite avec de multiples influences qui l'ont précédée. La gnose chrétienne, comme on l'a vu au tout début de cette émission, elle n'est pas apparue en un jour. Elle s'est inspirée de tout un tas de courants, l'hermétisme antique, les cultes mystères antiques, l'orphisme, peut-être le bouddhisme avec des guillemets, peut-être du zoroastrisme, mazdéisme avant, de la mystique juive dans une certaine mesure. Voilà, les choses se transforment tout le temps et les choses se réinventent perpétuellement. Donc, une gnose chrétienne de nos jours, oui, il en existe plusieurs représentations. Tu peux rencontrer deux adeptes qui se définiront tous les deux comme gnostiques, mais qui ne font pas du tout la même chose et qui ne croient pas du tout la même chose. C'est tout à fait possible. Mais il y aura toujours quelques éléments communs, si je puis dire. Question de Mike. La materia prima est une étincelle du verbe. Alors, quel secret cherche-t-elle à révéler lorsqu'elle se change en or philosophique ? Ça n'a pas vraiment de rapport avec notre sujet, Mike, ou du moins pas de façon immédiate. Parce que là, tu nous lances sur l'alchimie. Et l'alchimie, c'est passionnant. L'alchimie, c'est souvent lié à de la mystique chrétienne aussi. Mais là, dans ton message, j'avoue que ça nous emmène sur 5 concepts différents. Et ça va nous prendre un moment de tous les explorer. Alors, on en parlera quand on se croisera. Alors. Connais-tu des secrets des Valentiniens ? Oui, dans une certaine mesure, puisqu'on a leur texte. Les secrets des Valentiniens, ils sont exposés dans certains des évangiles dits apocryphes, notamment dans l'évangile selon Philippe, qui est un texte typiquement valentinien, dans la Pistis Sophia, qui est soi-disant écrit par Valentin lui-même. Et donc on a un des secrets valentiniens, c'est la présence du féminin sacré, c'est-à-dire de la Pistis Sophia, représentée de façon humaine par Marie-Madeleine dans la Pistis Sophia notamment. Marie-Madeleine n'est pas une divinité, mais c'est une sorte d'archétype humain de la sagesse divine, tout comme Jésus est l'archétype du Dieu Père. C'est hyper intéressant. Mais là, je te renvoie à mes vidéos sur les évangiles apocryphes pour voir tous les concepts valentiniens exposés. Donc, notamment l'évangile selon Philippe, que tu vas trouver sur la chaîne, notamment l'évangile selon Marie-Madeleine, bien entendu, qui est sur la chaîne aussi. Et à la fin du mois, je vais vous proposer un évangile qui sera aussi typiquement dans le courant des valentiniens. À la fin du mois, ce sera la prochaine Academia. Alors, là, ce n'était pas une question. Je regarde s'il y a un dernier message et on va arriver au bout tranquillement. Alors, là, il y a un message. Ce n'est pas forcément une question, mais je vais le prendre parce qu'il est intéressant. J'ai envie de dire un message qui nous parle du retour du christianisme en France qui fait peur à Julien qui l'a écrit par rapport aux dérives du passé. Le retour du christianisme en France, il est notable depuis... Alors moi, je le remarque par la chaîne depuis 2-3 ans. On remarque un petit sursaut du christianisme en France. Mais alors vous savez, je ne traite pas spécialement d'actualité. Alors quand je dis je ne traite pas d'actualité, mon but n'est pas de commenter l'actualité ni de la juger. En revanche, le retour du christianisme en France, il s'explique sociologiquement. Juste pour faire une analyse de la société actuelle, vous avez en France des fractures sociales dans le pays qui se fait, donc avec notamment une montée de l'islam, et cette montée de l'islam fait peur à certaines personnes qui vont chercher le retour à leur tradition, un peu leur racine historique et culturelle, qui se manifeste par le christianisme. C'est une des raisons qui explique la montée du christianisme en France, c'est le sentiment de vouloir retrouver ses racines culturelles par le vecteur religieux. C'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que, comme le disait Christopher Parrish dans le Réenchantement du monde, nous autres humains avons besoin de spiritualité. Vu que les grandes religions historiques se sont plus ou moins effondrées à une époque, eh bien, il y a des substituts, notamment le New Age, le spiritualisme, le spiritisme, l'occultisme, tout un tas de courants plus exotiques, peut-on dire, de spiritualité, parce que les gens sont en demande. Puis on est rentré dans une société matérialiste, le culte du moi, je, donc on a commencé à établir des spiritualités à la carte, plus ou moins adaptées à nos petites personnes, et puis de ce fait, on arrive dans le gloobie-boulga du New Age, mais en perception plutôt négative, si l'on peut dire. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même un peu ce contre-coup. Alors, sociologiquement, vous savez, on a parlé du New Age pendant très longtemps, et aujourd'hui, depuis quelques années, on commence à avoir un nouveau concept qui est le post-age, encore après. Et dans le post-age, eh ben, on entre sur une nouvelle phase un peu millénariste. Le New Age, vous savez, c'est une vision un peu heureuse, genre on est tous lumière, on va élever nos champs de conscience, on va entrer dans un nouveau paradigme, l'ère du verso, la totale. Le New Age, c'est en général toujours une vision assez utopique et positive du monde sur le futur. Eh ben, le post-age, c'est l'inverse. C'est une vision négative. Ça va mal, de toute façon la civilisation va s'effondrer, de toute façon tout va péter, etc. Tout ça. Donc il y a un côté de plus mélancolique et plus négatif. Et de ce fait, ça fait que ces systèmes de religion un peu à la carte New Age, eh ben, eux-mêmes, ils séduisent moins. Et inversement, on va avoir un retour un petit peu vers des religions historiques qui ont l'air plus solides, plus stables et plus rassurantes. D'où, dans le cadre français, eh bien, on va avoir des gens qui vont retourner un petit peu vers ce christianisme. Par rapport au message qui a été donné, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter de ce retour chrétien? Je ne trouve pas. J'ai toujours été pour, ça c'est des opinions personnelles, je suis pour à ce que les gens aient une spiritualité, quelle qu'elle soit. Si vous êtes chrétien, c'est très bien, si vous êtes musulman, c'est très bien, si vous êtes juif, c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, tant que vous ne venez pas casser les bonbons aux autres, tout simplement. Tant que vous ne faites pas de prosélytisme, vous faites de mal à personne, et bien écoutez, ça va très très bien se passer, tout simplement. Donc si le christianisme revient en France, et si ça apporte du bien-être aux gens, s'ils se sentent mieux, si ça leur permet d'avancer dans leur vie et d'avoir cette démarche spirituelle de recherche, moi je vote pour à 500%. Après, quel christianisme? S'ils sont dans le catholicisme assez fréquemment, aucun souci, ça leur convient très bien. S'ils sont dans un christianisme plus ésotérique, plus gnostique, etc., c'est très bien aussi. Chacun va là où il veut, tout simplement. Tout le monde n'a pas besoin d'aller dans une démarche ésotérique, ça va convenir à des individus et ça ne conviendra pas à d'autres, tout simplement. Voilà ce que l'on peut en dire. Alors je dis pas ça pour faire du relativisme en disant béni oui oui, tout le monde a raison, hein. Vous savez, j'ai les goûts, hein. Je pense que des religions sont supérieures à d'autres. Quand je dis supérieur à d'autres, qu'est-ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous dire qu'une religion est... toutes les religions sont des expressions de la spiritualité. Mais moi, à titre personnel, je pense que des religions sont théologiquement plus assises, plus complexes et plus intéressantes que d'autres. C'est mes goûts personnels. Alors, je ne suis pas en train de vous dire c'est parfait, tout est pareil, quoi. Non, je ne pense pas ça une seconde. Pareil dans les traditions ésotériques. Je pense qu'il y a des traditions ésotériques qui sont beaucoup plus élaborées, et beaucoup plus techniques, beaucoup plus rayonnante que d'autres systèmes. C'est des goûts personnels. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous faire du béni oui-oui, mais en tout cas, moi, le fait que les gens retournent vers un chemin de spiritualité, que ce soit le catholicisme ou autre chose, ça ne me pose aucun problème, bien entendu. Y a-t-il des grands penseurs actuels de la gnose chrétienne? Des grands penseurs actuels vivants. Je pense par exemple à Jean-Marc Vivenza qui est un auteur qui est dans une démarche maçonnique mais qui écrit beaucoup sur la gnose chrétienne en l'occurrence, donc qui est vraiment dans une démarche de gnose chrétienne. Bon, je pense à lui récemment parce que j'ai lu son dernier bouquin il n'y a pas très très longtemps, mais il y en a d'autres, je ne me viens pas forcément en tête immédiatement. On a fini là. Donc je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de soirée. Juste petite info très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le dernier live, c'était une longue émission de 2h40 sur la fée Morgane. Et si vous vous dites « Ah ouais, mais les mythes arthuriens, ça m'intéresse pas trop », détrompez-vous. Allez voir cette émission, vous allez voir, je vous y avais concocté quelques surprises dans l'analyse symbolique du personnage qui dépasse très largement le cadre arthurien. Allez la voir. Pour les dates, cet été, j'ai deux conférences en présentiel de prévues sur l'été. Une le 25 juillet à Rieux-Minervois, pas très loin de Carcassonne, où je vais proposer une conférence sur l'histoire de la sorcellerie. Mais il ne s'agit pas de refaire l'historique de la sorcellerie, c'est aussi de présenter quelles étaient les pratiques concrètes des prétendues sorcières de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc. Donc on veut dire, c'est bien de parler de l'histoire des sorcières, mais concrètement, en fait, elles faisaient quoi, les sorcières? C'était quoi leur rituel? C'était quoi leur croyance, leur cadre de croyance, leur procédé rituel, etc. On va entrer un petit peu dans la technique de ce qu'était la sorcellerie dans les époques du passé. Deuxième conférence, ça sera le 1er août à Rennes-le-Château, comme tous les ans, je donne une conférence à Rennes-le-Château. Et on va traiter d'une théorie ésotérique, donc on va parler d'une théorie d'ésotérisme chrétien spécifiquement, qui se base sur ce concept. Y a-t-il un christianisme avant le Christ? En gros, y avait-il un christianisme depuis l'aube des temps? Et on va s'intéresser à Paul Lecourt, on va s'intéresser au Hieron du Val d'Or, on va s'intéresser à l'abbé Boudet, curé de Rennes-les-Bains, et on va s'intéresser à Marcel Fissin, on va s'intéresser à Pic de la Mirandole, on va s'intéresser aux penseurs patristiques aussi, comme Origène et Clément d'Alexandrie, aussi, donc une conférence le 1er août à Rennes-le-Château. Voilà pour les infos, sinon moi je vous retrouve mercredi pour une émission sur les sociétés secrètes, on va étudier une société secrète du 18e siècle, attendez-vous à quelques surprises, et puis la semaine suivante, une Academia, où on va explorer un nouvel évangile apocryphe, qui appartiendra à l'ésotérisme chrétien du gnosticisme et plus précisément du courant des Valentiniens. Sur ce, une très bonne fin de soirée à tous. Merci à tous d'avoir été là. Merci au Bodo qui était là. Merci à tous les membres qui étaient déjà là et les nouveaux qui nous ont rejoints. Et je vous dis à très bientôt. Petite invocation, portez-vous bien, le meilleur pour vous et pour vos proches. Et puis, la réussite dans vos projets et une bonne recherche à vous. À très bientôt.